Le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Lorsqu'Angela Merkel reconnaît avoir une relation conflictuelle avec Emmanuel Macron, le président français lui dit assumer la confrontation féconde avec la chancelière allemande, une bataille de mots de nature surtout à relancer le débat autour du projet européen à 10 jours maintenant du scrutin.
Au lendemain de l'interdiction faite au réseau de télécommunications américains de se fournir en équipement auprès de sociétés étrangères jugées à risque, à commencer par l'opérateur chinois Huawei, Pékin met à nouveau en garde les États-Unis contre une atteinte aux relations commerciales.
Les actionnaires majoritaires du groupe sucrier allemand Südzucker ont fermé la porte hier soir à une cession des sucreries vouée à la fermeture de sa filiale française Saint-Louis Sucre, filiale que les betteraviers français souhaitent encore reprendre. Le taux de chômage au quatrième trimestre 2018 est en recul de 0,1 point en France à 8,7% de la population active, soit son plus bas niveau depuis début 2009 selon des chiffres provisoires publiés ce matin par l'INSEE. Et puis dans une vingtaine de minutes, l'invité politique de la rédaction aujourd'hui, Pierre-Henri Dumont, député Les Républicains du Pas-de-Calais. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Sexe et savoir font-ils bon ménage? Peut-on être à la fois un corps désirant et un cerveau bien rempli? On en parlera avec notre invité, le neurologue Lionel Nakache, qui signe chez Odile Jacob un nouvel essai. Nous sommes toutes des femmes savantes.
Merci et à tout à l'heure. Si après le Brexit, la question se posait déjà de savoir de quoi l'Union européenne est-elle encore le nom, les déclarations dans la presse hier de la chancelière allemande semblent bel et bien témoigner de la difficulté manifeste aujourd'hui à retrouver le caractère à la fois reconnu et désiré d'un idéal européen. Ou quand le contrat de société imaginé par les pères fondateurs de l'Europe, davantage qu'à un véritable contrat de mariage, ressemble de plus en plus à une forme de concubinage sans obligation de fidélité. Alors c'est vrai qu'en reconnaissant avoir des confrontations avec Emmanuel Macron, Angela Merkel ne révèle au fond rien qui ne soit déjà connu. On remarquera toutefois que celle qui, 24 heures seulement après l'entrée à l'Élysée d'Emmanuel Macron, avait accueilli le nouveau président chez elle à Berlin par ces mots « Au début de toute chose, il y a un charme », a visiblement revu depuis son jugement. Et par ailleurs, quand bien même des divergences étaient clairement apparues ces dernières semaines entre Paris et Berlin, la vraie nouveauté vient de ce que nous sommes à présent en pleine campagne électorale pour les européennes. Angélique Boin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Bruxelles. Alors, sans exagérer la portée de ces déclarations qui ne font qu'acter une forme de désamour récurrent dans le couple franco-allemand, elles n'en restent pas moins importantes dans la mesure où elles mettent l'accent sur les enjeux du scrutin à venir au-delà du simple renouvellement au Parlement européen.
Eh oui, car les urnes à peine rangées pour 5 ans, il faudra se pencher tout de suite après l'élection sur les postes clés à la tête des institutions, dont celui de président de la Commission. Et c'est un vrai sujet de tension entre la France et l'Allemagne. Angela Merkel est favorable au système dit du Spitzenkandidat, système controversé, selon lequel c'est le chef de file de la famille politique qui arrivera en tête de ce scrutin qui raflera la mise. Le PPE, le parti des droites européennes, est toujours favori. Angela Merkel défend donc la candidature de sa tête de liste, l'Allemand Manfred Weber. Emmanuel Macron conteste, lui, clairement l'automaticité de cette décision. Il n'est pas le seul dans l'Union européenne. Nous devons éviter le compromis sur le moins bon candidat, a-t-il lâché au sommet de Sibiu. La France veut un dirigeant qui a une expérience d'un poste exécutif. Manfred Weber est député européen et président de groupe. À noter que 4 autres postes clés seront à pourvoir. La présidence du Parlement, celle du Conseil, celle de la BCE, qui pourrait aussi intéresser l'Allemagne, et le poste de chef de la diplomatie européenne. Il y aura donc un grand marchandage qui devra respecter certains équilibres, petit pays, grand pays, Est et Ouest, présence d'au moins une femme, dit-on en coulisses, et bien sûr, le poids des différentes familles politiques dans ce futur Parlement.
Et puis l'autre match, donc Angélique, qui se dessine effectivement à travers les déclarations hier de la chancelière, c'est celui de la réorganisation des familles politiques. En clair, lorsqu'Angela Merkel défend le camp conservateur majoritaire aujourd'hui au Parlement, le PPE, Emmanuel Macron, lui, souhaite créer une nouvelle dynamique.
Oui, et pour certains experts européens, c'est la première fois que les élections pèseront autant sur la façon dont l'Europe agira dans les prochaines années. Car il faut s'attendre à un vrai bouleversement des équilibres politiques dans cet hémicycle. Jusqu'à présent, ce sont la droite et la gauche qui se partageaient le pouvoir. Le PPE et l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates, ils se partageaient les postes importants et se mettaient d'accord sur certains votes. Là, il va falloir compter avec le poids le poids plus important des eurosceptiques, mais aussi le renforcement annoncé du groupe des centristes pro-européens, qui devrait donc bénéficier de l'arrivée d'une vingtaine de députés La République En Marche, selon les sondages. En s'alliant à d'autres partis centristes, les futurs élus macronistes veulent devenir la troisième force européenne, un nouveau groupe pivot qui pourrait construire alors des coalitions selon les sujets avec les Verts, les sociodémocrates ou encore l'aile démocrate chrétienne du PPE. Voilà l'ambition du président français.
Merci Angélique Bouin en direct de Bruxelles. Une vingtaine de chefs d'État, de gouvernement et de géants du numérique, dont Google et Facebook, tous présents hier à l'Elysée, se sont engagés à renforcer leur lutte contre la propagande terroriste et l'extrémisme violent sur Internet, un texte toutefois non contraignant et que les États-Unis de leur côté ont refusé de signer au prétexte qu'il pourrait être potentiellement contraire au premier amendement de la Constitution sur la liberté d'expression. Alors si l'émergence des réseaux sociaux est souvent présentée comme un nouvel outil d'influence permettant d'amplifier la propagation de discours malveillants, la cinquième génération de télécommunications mobiles, la fameuse 5G, n'échappe pas non plus aux inquiétudes en tout genre que suscite chaque virage technologique d'envergure dans le domaine de la communication. Et c'est ainsi qu'hier, Donald Trump a signé un décret interdisant aux réseaux américains de télécommunications de se fournir en équipement auprès de sociétés étrangères jugées à risque, au premier rang desquelles, bien sûr, le géant chinois des télécommunications Huawei. Claude Guibal, bonjour.
Bonjour.
Alors ce décret était en réalité attendu. Il est par ailleurs un symbole de plus de cette rivalité commerciale entre Washington et Pékin qui depuis plusieurs mois s'exprime notamment à travers l'imposition de droits de douane accrus entre les deux premières puissances économiques de la planète. Sauf que cette fois-ci, Claude, pour se justifier, le président américain n'a pas hésité à déclarer une urgence nationale. Qu'est-ce qui justifie un tel niveau d'alerte ?
Urgence nationale, effectivement Thomas. Menace pour la sécurité du pays. La Maison Blanche a sorti les grands mots. Il faut dire que l'expansion éclair en quelques années à peine du géant de la téléphonie chinoise inquiète l'entreprise et soupçonnée notamment par les services de renseignement américains de fabriquer des équipements qui pourraient être utilisés à des fins d'espionnage. Et les États-Unis justifient donc leur décision de placer cette entreprise sur leur liste noire par le fait que, selon la loi chinoise, toute entreprise nationale est tenue de partager ses informations avec l'État, c'est-à-dire le Parti communiste. Alors, au-delà du risque sécuritaire, c'est aussi évidemment, vous l'avez dit, une étape franchie dans la guerre économique qui oppose Washington et Pékin depuis des mois. Ce bras de fer non-stop, avec encore tout récemment cette décision américaine donc d'augmenter de façon vertigineuse les taxes douanières sur les produits chinois. Les mesures prises par Pékin en représailles, une surenchère qui fait aujourd'hui tanguer l'économie mondiale. Mais cela, Donald Trump n'en a cure. Pour lui, comme pour l'ensemble des Américains, la Chine, eh bien, c'est l'ennemi stratégique numéro un ennemi qu'il faut maintenir à terre, qu'il faut étouffer, alors que les négociations commerciales pourtant continuent entre les deux pays. Et dans cette guerre, eh bien, Washington cherche à entraîner l'Europe, à qui il demande, comme l'ont fait les États-Unis, d'exclure Huawei du marché de la 5G, un marché émergent qui va permettre de multiplier les systèmes connectés sur les véhicules, sur les objets, et donc de créer autant de portes d'entrée pour les redoutables chevaux de Troie informatiques.
Merci Claude Guibal. Le numéro 1 du sucre, le groupe allemand Südzucker, touché comme l'ensemble d'ailleurs des acteurs de cette industrie par une déprime persistante des cours du sucre, confirmera-t-il la fermeture des deux raffineries de sa filiale française Saint-Louis? Le plan social annoncé mi-février prévoit toujours la suppression de près de 130 postes, étant entendu qu'au-delà donc du sort réservé aux salariés de ces deux sucreries, ce sont également des centaines de planteurs de betteraves à sucre qui risquent désormais, faute de déboucher, de voir leur modèle économique remise en cause. Manuel Ruffez, bonjour.
Bonjour.
Alors hier soir, on avait cru comprendre que Südzucker avait acté la fermeture de ses deux filiales françaises. En réalité, ça n'est pas le cas. Le coup de pression est venu des planteurs de betteraves allemands.
Et oui, un communiqué aussitôt interprété comme une fin de non-recevoir de la part du groupe allemand Südzucker. Ce qui n'est pas le cas. Certes, les planteurs allemands sont actionnaires, certes, leur avis compte, mais c'est avec le groupe Südzucker que négocient en ce moment les planteurs de betteraves français de la CGB. Et leur interprétation d'une réunion de plus de 3 heures hier avec les représentants du groupe est bien différente. Ils ne cachent pas, les betteraviers français, que ces 3 heures étaient intenses, que cette réunion aurait même pu s'arrêter au bout de 5 minutes, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Südzucker leur a demandé leur offre de reprise par écrit. Elle partira cette offre au plus tard lundi et s'est engagée à leur faire un retour dans les 3 semaines à venir. Donc, vous voyez deux interprétations totalement différentes de ce rendez-vous. Les planteurs français l'affirment, on les a fait réfléchir et on continue pour atteindre notre objectif de reprise de leurs deux usines. Alors cette offre, Quelle est-elle? Eh bien, les betteraviers français ont mis sur la table 30 millions d'euros pour la reprise des deux usines. Ils affirment aussi que Zoet Zoeker économiserait environ 70 millions d'euros nécessaires à la désindustrialisation des deux usines. Les Allemands ont envie de trouver une solution, soutiennent-ils. On s'est clité clairement sur un message positif. Eh bien, c'est pourtant pas du tout effectivement ce que disait le communiqué cette nuit des planteurs allemands.
Merci Manuel Ruffez. S'agissant d'Ascoval, à présent le ministre de l'économie Bruno Le Maire a assuré hier que la reprise par British Steel de l'acierie de Saint-Saulve en difficulté aura bien lieu. Selon lui, le groupe britannique et l'État ont débloqué les fonds pour finaliser la cession tout en continuant de négocier un soutien financier de Londres, ce qui n'empêche pas les élus locaux mais plus encore les salariés de rester perplexes. Il faut dire que le sort de l'usine proche de Valenciennes qui emploie actuellement 270 salariés a connu de très nombreux rebondissements depuis deux semaine. Six nouveaux salariés ont déposé un préavis de démission. D'autres seraient en dépression quand les salariés ne supportent plus l'attente et la pression. Et c'est dans ce contexte qu'on a appris ce matin que le taux de chômage avait reculé de 0,1 point à 8,7% de la population active en France au premier trimestre 2019, soit un plus bas depuis 10 ans, selon les données publiées ce matin par l'INSEE. Annabelle Grelier, bonjour.
Bonjour.
Alors, on imagine qu'il y a lieu, bien entendu, de se réjouir de cette nouvelle, même si on le sait en termes de chiffres sur le chômage, il convient toujours de rester prudent et surtout d'être tout à fait précis sur les évolutions observées.
Oui, et précis sur les modes de calcul du chômage. L'Institut national de la statistique et des études économiques, l'INSEE, publie donc tous les trimestres le taux de chômage issu de sondages et calculé selon la définition du Bureau international du travail, le BIT. Donc, ce sont les seules données internationalement reconnues et elles sont pertinentes pour les comparaisons avec les autres pays. Quand on en vient à les utilisés pour la France, c'est tout de même intéressant de les comparer avec ceux de Pôle emploi. Et ils sont depuis quelques années quand même différents quand ils ne divergent carrément pas, c'est-à-dire que le chômage baisse pour le TIT, pour le BIT quand il augmente pour Pôle emploi. Bref, ceux qui nous sont donnés aujourd'hui de commenter sont ceux du BIT. Et ils montrent que l'amélioration sur le marché du travail bien se poursuit, mais à un rythme très lent, une baisse de 0,1%. Tout le monde en conviendra, c'est mieux que rien. La bonne nouvelle, c'est le taux de chômage en France qui, selon le BIT, donc, est à son plus bas niveau depuis début 2009. Par tranche d'âge, c'est un peu moins positif, car le taux de chômage ne baisse que pour les 25 à 49 ans, l'âge où l'on est en théorie le plus employable, mais il augmente chez les jeunes de moins de 25 ans et chez les seniors de plus de 50 ans. Quant à la qualité de l'emploi et le sous-emploi, eh bien le BIT n'est pas le meilleur indicateur pour le mesurer, car selon ces critères, on n'est pas, par exemple, considéré comme un chômeur si l'on souhaite travailler, mais que l'on n'est pas disponible dans l'immédiat. Là, on se retrouve dans ce qu'on appelle le halo du chômage, et l'INSEE a recensé 1 400 000 personnes dans cette catégorie. C'est assez élevé et alors donc c'est plutôt bon en règle générale, mais c'est surtout que ça nous dit qu'on n'est peut-être pas très loin du chômage structurel en France quand on sait qu'il est moitié moins élevé dans le reste de l'Europe en moyenne. Là, c'est une nouvelle moyenne.
Merci Annabelle.
Moyennement bonne.
Il était l'un des plus influents chefs de l'organisation séparatiste basque ETA, dissoute l'an dernier après 4 décennies de violence. Yoshu Tarnera a été arrêté ce matin en France après plus de 16 années de cavale. Florence Thurm, bonjour.
Bonjour.
Yoshu Tarnera, 68 ans, avait été tour à tour l'inspirateur d'une stratégie d'attentat meurtrier et puis le promoteur de négociations de paix avec l'État espagnol avant d'être écarté de la direction du groupe.
Oui, il était sans doute l'un des 3 hommes cagoulés qui apparaissent sur la vidéo annonçant la dissolution d'ETA le 3 mai 2018 et il restait l'un des militants les plus recherchés de l'organisation séparatiste basque. José Antonio Urrutikoetxea, plus connu sous le nom de Yoshu Tarnera, aura été l'un des chefs les plus influents d'ETA qui l'avait rejoint très jeune dans les années 70 lors des premières actions meurtrières de l'Espagne franquiste et son parcours fait écho effectivement aux dissensions et à l'évolution de l'organisation entre les partisans de la lutte armée et ceux des négociations maintes fois avortées avec les différents gouvernements espagnols. Il s'oppose notamment aux discussions engagées à Alger avec le gouvernement socialiste de Felipe González dans les années 80. Il prend la tête de l'organisation en 87 avant d'être arrêté 2 ans plus tard en France où il s'est réfugié. La France qui va le condamner à 10 ans de prison pour association de malfaiteurs terroristes dans un procès où il réaffirme sa fierté d'appartenir à ETA. Tarnera purge sa peine à Fresnes, puis c'est l'expulsion vers l'Espagne et son élection en tant que député au Parlement autonome basque jusque sous l'étiquette de Herri Batasuna, un parti considéré comme la vitrine politique d'ETA. Mais son passé de terroriste à l'initiative de la stratégie des attentats à la voiture piégée le rattrape. Cité à comparaître devant la justice espagnole, il disparaît dans la nature en 2002 et il va tenter à son tour, cette fois, de promouvoir les négociations de paix avec Madrid avant d'être écarté de la direction du groupe en 2006. On le dit alors malade, souffrant d'un cancer à l'estomac, mais il conservera malgré tout une influence suffisante pour enregistrer cette déclaration finale venue mettre un terme à un conflit de près de 60 ans qui aura fait 829 morts et des milliers de blessés.
Merci Florence Turme. Parce que le phénomène du tourisme de masse ne se vit pas qu'à Paris ou Venise. Direction à présent le Pérou, là-bas le site Inca de Machu Picchu, lequel avait failli il y a quelques années être mis par l'UNESCO sur la liste des patrimoines de l'humanité en danger, se dégrade à mesure que les milliers de touristes par jour viennent visiter la célèbre citadelle de pierre édifiée au XVe siècle sur le versant oriental des Andes. Et c'est ainsi que depuis hier, les autorités péruviennes ont décidé de limiter l'accès des touristes à certaines zones, seulement du site, en l'occurrence deux temples et une pyramide de la cité Inca, pour éviter donc que la vieille montagne de son nom en langue quechua ne se dégrade davantage. C'est une correspondance signée Eric Sanson.
Ils sont en moyenne 4000 à se bousculer tous les jours sur les chemins de la vieille montagne, le Machu Picchu en quechua. Et 4000 touristes, ça use même énormément les pierres de l'ancienne place forte de l'Inca Pachacutec. Depuis le 15 mai au matin, le gouvernement péruvien limite à 3 heures quotidiennes l'accès à 3 parties emblématiques de Machu Picchu, les temples du soleil du Condor et la pyramide de l'Intihuatana. Préparant un voyage à Cusco, l'indigène équatorienne Katiknina Titoania est partagée.
C'est contradictoire parce qu'en fait je suis d'accord, parce que c'est un site naturel et ancestral. Je crois que Machu Picchu doit être protégé, qu'il faut apprécier sa valeur. Clairement, trop de touristes, ça n'est pas bon pour un site emblématique comme celui-là. Si on me donne une bonne raison, je crois que je comprendrai. Mais quelque part, aller à Cusco sans visiter Machu Picchu fait perdre de son charme au voyage.
L'expérience pilote prendra fin le 28 mai. Si les résultats sont probants, le gouvernement péruvien adoptera des mesures définitives le 1er juin prochain pour protéger son joyau touristique.
Au Yémen, la coalition menée par l'Arabie Saoudite avait promis hier soir de riposter avec force aux attaques des rebelles houthis. Et c'est ainsi que ce matin, 48 heures après qu'un oléoduc pétrolier saoudien eût été visé par des drones du mouvement chiite pro-iranien, la coalition a lancé une vingtaine de raids aériens, notamment sur la capitale Sanaa, faisant au moins 6 morts et 10 blessés. L'invité politique de la rédaction à présent, Pierre-Henri Dumont, député Les Républicains du Pas-de-Calais. Bonjour monsieur.
Bonjour.
À mes côtés pour vous interroger, Anne Fauquemberg. Bonjour Anne.
Bonjour.
Vous qui êtes des Hauts-de-France, revenons une minute à Saint-Saulve dans le Nord. Nous l'évoquions dans le journal, les salariés d'Ascoval n'en peuvent plus de ce feuilleton sans fin du sauvetage donc de leur aciérie. Des promesses aussi non tenues aux difficultés financières des repreneurs. Il y aurait d'ailleurs des dépressions, on l'a dit également, parmi le personnel. Est-ce que la souffrance sociale n'est pas aujourd'hui l'une, sinon la thématique oubliée de cette campagne des européennes?
C'est une des nombreuses thématiques des européennes, mais la campagne en réalité ne fait que commencer sur les européennes. On a eu un grand débat qui s'est tiré de très nombreux mois, et on voit que les Français commencent à peine à s'intéresser à cette campagne. Donc évidemment, avec 9 jours restants, on ne peut pas aborder l'ensemble des sujets. Sur Ascoval, ce qui est important de signaler, c'est que aujourd'hui la reprise d'Ascoval par British Steel n'est pas remise en cause. C'était annoncé par Bruno Le Maire hier, c'était annoncé par Xavier Bertrand, le président de la région des Hauts-de-France. L'État a débloqué les fonds, British Steel a débloqué les fonds également. Et donc, il y a une insécurité évidente de la part des salariés qui vivent des mois complètement en enfer, pour être très très clair d'un point de vue psychologique, les démissions, les dépressions le prouvent, mais aujourd'hui il n'y a aucune remise en cause de la reprise d'Ascoval par British Steel et donc la sauvegarde d'un maximum d'emplois.
Question d'Anne Fauquemberg.
Alors vous dites que la campagne ne fait que commencer, mais les meetings LR ont déjà commencé. Il y en avait un hier soir, porte-maillot. Les thèmes dominants portés par François-Xavier Bellamy concernaient le contrôle de l'immigration, la défense de la civilisation européenne ou encore la lutte contre l'islamisme. Il n'y a pas d'autre choix pour récupérer la partie de votre électorat, et ce n'est pas nouveau, qui a basculé chez Marine Le Pen?
Je suis pas d'accord. On a développé toute une série de thèmes. Évidemment, les questions de frontières, les questions d'immigration en font partie, mais d'autres D'autres solutions ont été proposées par les Républicains, par exemple sur les problèmes d'écologie, mettre une barrière douanière écologique à l'entrée de l'Union européenne, c'est une proposition forte. Donc nous parlons des sujets que vous avez évoqués, nous parlons également de tous les autres sujets qui font le sel d'une campagne européenne et surtout un programme complet à défendre dans l'intérêt des Français au Parlement européen.
Alors, vous êtes dans un exercice d'équilibriste pendant cette campagne avec les Républicains. Vous êtes à la recherche d'une troisième voie entre le Rassemblement National d'un côté et La République En Marche de l'autre, le RN qui siphonne un petit peu, de l'autre, le centre-droit attrapé par Emmanuel Macron. Est-ce qu'il y a un enjeu à conserver ce centre-droit ?
Ah ben, il y a évidemment un enjeu à ramener à nous tous les électeurs qui ont pu nous faire confiance par le passé, premièrement, et puis dans un deuxième temps, pouvoir élargir notre base. C'est le but de chaque formation politique, de faire en sorte de recueillir le maximum de voix et de défendre au mieux les Français qui leur ont fait confiance. Moi, ce que je vois tout simplement, c'est d'une part que la liste menée par Nathalie Loiseau est une liste clairement de gauche. Elle ne peut pas se réclamer de droite. On a sur cette liste des personnes comme Nathalie Loiseau, tête de liste, qui ont déclaré être favorables à la gestation pour autrui. On a sur cette liste Monsieur Canfin, qui a refusé de prendre un avion, où un Malien qui était jugé, qui a été condamné pour viol sur mineur, devait être renvoyé dans son pays. Il a fait toute une esclandre. On a à l'intérieur de cette liste M. Durand qui appelle à boycotter Israël. Donc on voit très bien que cette liste est une liste qui est aujourd'hui de gauche. Et à côté de ça, on a une liste qui est celle du Rassemblement National, celle menée par Marine Le Pen et Jordan Bardella, et qui, en réalité, a déjà gagné les élections européennes la fois précédente en 2014, avait fait 25% des voix. Et quel était le bilan de cette liste ? Un bilan absolument nul, parce qu'ils n'ont aucun allié au Parlement européen, ils n'en avaient aucun hier, ils en auront très très peu demain, et qu'en réalité, le seul choix, si on veut changer l'Europe, c'est le choix des Républicains et de leur formation politique. Ça a été dit dans le journal précédemment, le PPE, le Parti Populaire Européen, qui sera majoritaire à l'issue des élections au Parlement européen. Donc si vous voulez concrètement changer l'Europe, il n'y a qu'un seul choix, c'est la liste des Républicains.
Oui, alors je reviens quand même sur ma question de la troisième voie. Vous êtes crédité de 14% des voix, vous êtes dans une bonne dynamique, hein, c'est vrai, mais vous êtes loin aussi des 21% du premier tour de la présidentielle, donc c'est pas si simple de trouver cet espace.
Non mais on a vécu il y a 18 mois la pire défaite de notre histoire. On a eu un groupe de parlementaires à l'Assemblée qui a été diminué de moitié. On a été pour la première fois absent du second tour d'élection présidentielle. Donc on se reconstruit petit à petit. Le paysage politique est totalement différent aujourd'hui qu'il était il y a encore quelques années en France. Il vous a pas échappé que d'autres formations historiques comme le Parti Socialiste n'existent plus ou quasiment plus, risquent de ne pas avoir de représentants au Parlement européen, et que le fait d'être dans cette dynamique, d'avoir eu un meeting hier à Paris comme on a pu l'avoir avec plus de 4000 personnes présentes un mercredi soir pour une élection européenne, un meeting comme j'ai pu avoir dans ma commune à Marcq-en-Calaisis lundi soir avec 700 à 800 personnes dans la salle, ça prouve quelque chose. Et sur les élections européennes, il y a évidemment les sondages qui montrent les dynamiques, et aujourd'hui les Républicains sont en dynamique, c'est une évidence. Mais également, il ne faut pas oublier qu'on a 40% de participation, et que sur ces 40% de votants, il y en a un quart qui se décide le jour ou la veille du vote. Et donc, il est nécessaire de pouvoir aborder nos sujets, vous en avez évoqué quelques-uns.
Alors on va reparler de l'abstentionnisme dans une minute, mais peut-être un petit mot de ce qui vous est arrivé il y a 10 jours. Vous vous êtes fait taguer votre permanence, selon le journal La Voix du Nord, c'était écrit facho sur ce tag. C'est la première fois que ça vous arrive ?
Non, c'est déjà arrivé quelques fois auparavant, sur les affiches de campagne, sur la permanence également. J'ai ma permanence qui a subi un jet de pierre, un jet de pavé il y a quelques mois, j'ai dû changer la vitre. Il y a un climat un peu particulier puisqu'on a ce phénomène migratoire entêtant depuis 25 ans avec des groupes de no-borders qui instrumentalisent la misère de ces personnes et qui font en réalité le jeu des passeurs. Et moi j'ai des positions qui sont extrêmement fermes, qui sont celles défendues par l'ensemble des élus du territoire, qui est de dire que Calais ne peut pas être le réceptacle de la misère du monde et qu'il est nécessaire de leur trouver des solutions. Donc j'avais exprimé durant ma campagne législative une volonté d'avoir une tolérance zéro migrant à Calais, parce qu'une fois que ces personnes sont à Calais, il est trop tard. Elles se heurtent à un mur qui est le mur de la Manche, où on les voit dans les mains des réseaux des passeurs emprunter des petits bateaux au risque de transformer la Manche en nouvelle Méditerranée avec des morts à l'intérieur de nos eaux. Donc on ne peut pas l'accepter. Et des personnes qui, une fois plus, je le redis, je le répète, font leur beurre sur le dos des migrants comme le font les passeurs, ne tolèrent pas qu'on puisse avoir des positions fermes. Moi, je le regrette parce que ma permanence, c'est là surtout où je reçois du personne, où depuis mon élection, depuis quasiment 2 ans, j'ai accueilli plus d'une centaine de personnes, je les ai accompagnées dans des recherches d'emploi, je leur ai trouvé des logements, parce que le député, c'est qui ? C'est celui qu'on va voir quand l'administration ne répond plus, c'est la solution de dernier recours. Et avec mes équipes, on est extrêmement fiers de continuer ce travail au quotidien. quotidien pour aider les gens à qui plus personne ne parle.
Et pourtant, vous n'êtes pas le seul député à avoir vécu ce genre d'expérience de permanence taguée. On l'a vu pendant la crise des Gilets jaunes. Hein. Vos collègues de La République En Marche ont été aussi victimes de ce genre de faits. Il y a une défiance des Français à l'égard du politique. Pour parler d'abstentionnistes, 4 électeurs sur 10 hein, seulement disent qu'ils vont aller voter le 26 mai. C'est encore possible de retrouver du crédit, pas seulement au niveau des Républicains, hein, mais plus globalement pour la classe politique.
En quelques mots seulement.
C'est possible. C'est possible. Ça a été, par exemple, le cas sur toutes les mesures qu'on a mises en place. On parlait de la région des Hauts-de-France. Quand on est extrêmement concret, quand on permet de faire baisser le taux de chômage, comme le fait Xavier Bertrand dans la région des Hauts-de-France avec des initiatives pour permettre à des personnes d'avoir une voiture louée 2 euros par jour pour trouver un travail, retrouver un emploi, c'est extrêmement concret. Et je suis convaincu que c'est en étant le plus concret possible, au plus proche des gens, au plus proche des territoires, que l'on peut avoir des solutions, redonner confiance à la politique, faire baisser l'abstention. Et c'est aussi tout le problème de la réforme de la Constitution prévue par Emmanuel Macron qui va éloigner les députés des citoyens en doublant la taille des circonscriptions.
Merci Pierre-Henri Dumont, député, je le rappelle, Les Républicains du Pas-de-Calais, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Anne Fauquemberg. On termine avec un mot rapide de météo. Le temps de cet après-midi sera encore calme, mais sous un soleil moins généreux, en particulier du nord de l'Alsace aux Ardennes, ainsi que sur la moitié ouest du pays. Les températures, elles seront comprises entre 14 et 25 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.